Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Édouard Philippe était à Auschwitz aujourd'hui. Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah à Paris. Le président qui s'est engagé à continuer sans relâche à raconter la Shoah. Nathalie, vous recevez ce soir la philosophe Sylvia Nagasinski.
Bonsoir Sylvia Nagasinski.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir. Vous êtes philosophe féministe engagée. Votre dernier ouvrage, L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué chez Gallimard. Je le signale parce que ces questions de bioéthique, on va y venir dans un petit instant. Vous en avez évidemment parlé dans votre livre et vous y travaillez depuis le début des années 2000. C'est dans la deuxième partie de cette interview. Alors Jérusalem, la semaine dernière, cérémonie et nouvelle inauguration aujourd'hui au Mur des Noms à Paris dans le Marais. Précisément, en cette date de journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, la France réagit à la hauteur de l'horreur du passé ?
Je pense que oui. C'est pas nouveau, mais c'est très important de voir... à quel point la France et ceux qui la représentent restent profondément touchés par l'histoire. Et évidemment, on connaît aussi la problématique du rapport entre la mémoire d'un côté et l'histoire. Vous parliez de la visite à Auschwitz. J'ai fait cette visite il y a déjà un certain nombre d'années. Et je crois que j'ai compris à cette occasion justement la différence profonde entre l'histoire, qui certes est faite de traces, y compris celle-là, et les traces, les témoignages, tous les témoignages, tous les faits, ouais. Toutes les traces, et puis le fait d'être en présence de ces traces, de ces restes, sur l'endroit même. Quand vous voyez les rails sur lesquels arrivaient les trains, quand vous voyez les monceaux de cheveux, les monceaux de paires de lunettes, les tas de valises des gens qui ont été massacrés là, ça c'est quelque chose qui, même si vous ne l'avez évidemment pas vécu, mais c'est quelque chose qui parle à la sensibilité, qui parle à l'expérience humaine. On se rapproche de ça. Et je me souviens que toute cette visite, nous l'avons faite, on ne pouvait pas dire un mot.
Ouais. Mais justement,
on ne pouvait pas parler.
Bien sûr, Sylvia Nagasinski, cette présence sur place, elle est importante et les scolaires y vont, et d'ailleurs pas seulement hein, les élèves. Mais vous vous souvenez peut-être cette phrase dans les années 2000-2002 exactement, « L'ère des témoins s'achève », c'est Simone Veil qui le disait, elle s'en était déjà émue et elle se posait la question, et je vous la pose ce soir, quel sera l'effet sur la commémoration et sur la transmission de la Shoah aux jeunes générations quand les derniers témoins ne seront plus là ?
Mais je crois que Simone Veil, si je me rappelle bien, n'aimait pas tellement l'expression « devoir de mémoire », peut-être parce que, non pas parce qu'elle le niait, je crois qu'il y a une dimension universelle, anthropologique, de la mémoire comme devoir, c'est-à-dire comme dette à l'égard de ceux qui sont morts. C'est nos anciens, c'est nos parents, c'est ceux qui ont combattu, c'est les résistants, c'est les victimes de grandes catastrophes. On a ce sentiment de dette. Si on l'a pas, en revanche, on peut pas vous l'imposer du dehors. Et puis, parallèlement à ça, il y a la transmission à laquelle elle tenait beaucoup, la transmission, l'enseignement, qui se fait à la fois à travers... On a des enregistrements des témoins, on a des textes écrits aussi, on a Robert Antelme, on a Primo Levi, on a Georges Semprin pour les camps aussi. Je pense que cette mémoire, elle a déjà de multiples traces qui resteront par
vous
rapport
pensez,
au décès.
Vous êtes rassurée là-dessus véritablement parce que quand on voit les chiffres aujourd'hui, quand on voit que plus d'un tiers des Juifs de France se sentent aujourd'hui menacés, quand on voit la méconnaissance de la Shoah aussi pour les moins de 38 ans notamment, on se dit est-ce que cela va suffire, ces témoignages, ces écrits, même ces images, est-ce que cela va suffire véritablement selon vous ?
On ne peut jamais en être certain, donc faut y travailler, c'est sûr, et il est sûr qu'il y a une résistance au devoir de mémoire. Il y a une résistance aussi à la mémoire de faits qui sont controversés par certains, à travers certaines idéologies. Il y a une résistance, il y a des fois une dénégation, une négation, un négationnisme. Et donc le travail doit être fait constamment. Et si cette mémoire est aussi importante, c'est aussi bien entendu pour comprendre le présent, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et notamment pour lutter au moyen du droit, par exemple, contre les violences antisémites qui continuent d'exister,
bien
les
sûr.
Crimes antisémites.
Et alors Sylvia Nagasinski, quand Emmanuel Macron, dans l'avion de retour depuis Jérusalem, compare la Shoah et ses 6 millions de Juifs exterminés à la guerre d'Algérie, le président se dit alors convaincu que la France doit revisiter la mémoire de la guerre d'Algérie pour mettre, dit-il, un terme au conflit mémoriel. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Alors ça, j'ai pas entendu cette phrase-là, elle m'inspire pas grand-chose, j'ai du mal à la comprendre telle que vous la rappelez. En revanche, j'ai été beaucoup plus intéressée par ce qu'il a dit sur le besoin de procès à l'occasion
de l'affaire Sarah Halimi,
Alors, il prend position
très clairement.
Je n'ai pas eu le sentiment qu'il prenait une position en agissant sur la justice, pas du tout. Il a juste constaté le fait qu'il y avait un recours auprès de la Cour de cassation. Bon, la justice suit son cours. Et d'autre part, il a évoqué ce qui lui était remonté aussi du pays et d'un certain nombre de citoyens, à savoir ce besoin de procès. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Il dit à ce moment-là, parler avec le cœur, d'ailleurs.
Ça m'intéresse beaucoup, ce devoir de procès, parce qu'à quoi ça sert, un procès ? Un procès, ça sert à la fois à rappeler la loi, à rappeler la transgression de la loi, à chercher les responsabilités, les conditions d'un meurtre, quelle est la responsabilité aussi du meurtrier, y compris en tenant compte des idéologies. Quand quelqu'un tue au nom de Allah Akbar, et surtout par antisémitisme, et là c'était bien le cas, la question se pose aussi de la responsabilité de cette pensée, mais même de cet homme aussi, parce que si vous voulez, l'absence de procès, vous savez sans doute que dans notre code civil, il y a l'article 122, si je prends le temps, qui consiste à dire qu'il y a une différence entre l'altération des capacités mentales et l'abolition. Et si on dit altération des capacités mentales, ça veut dire qu'il peut y avoir procès et jugement. Si on dit abolition, il n'y aura pas. Mais s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice rendue, il n'y a pas d'explicitation des faits. Moi, à titre tout à fait personnel, je pense que lorsqu'on a des crimes, non seulement des crimes barbares, des crimes racistes, antisémites, des crimes comme celui aussi, les tortures d'Ivan Halimi, enfin, il faut quand même s'en souvenir, il a été jugé. Là, dans ces crimes, on doit d'abord, il me semble, essayer de rendre la justice. Et si ensuite les experts expliquent dans quel état, quels sont les problèmes, ou exactement éventuellement maladie mentale ou pas maladie mentale du meurtrier, alors on peut considérer les aménagements de la peine.
Mais alors, vous avez entendu les plus hauts magistrats rappeler aujourd'hui l'indépendance de la justice.
Bien sûr, bien sûr.
Donc pour vous, Emmanuel Macron, compte tenu là des faits, parce que ce fait, ce drame autour de Sarah Halimi est dans cette particularité, dans cette singularité là, son devoir de réserve. Vous acceptez,
je ne me permettrai pas de juger ça, je ne l'ai pas entendu comme ça, je l'ai vu comme une réflexion de la liberté de l'esprit d'un représentant qui est représentant de la République, président de la République, et non pas comme une immixtion, personnellement, dans la justice. Moi, je trouve que non seulement il a le droit, mais enfin, il peut faire appel à sa conscience et dire que dans certains cas, il serait peut-être bien bon, sans agir directement, que des procès aient lieu.
Alors voilà sur cette première partie sur laquelle je voulais vous interroger aujourd'hui, évidemment, ces commémorations. Et puis bien entendu, je connais vos engagements. On a cité votre livre, Sylviane Agazinski, ce dernier ouvrage, L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué chez Gallimard, sur lequel vous vous interrogez sur les questions de bioéthique. C'est le cas d'ailleurs depuis 10 ans quasiment. Alors, on est au Sénat, ça y est, avant le vote, mardi prochain. Les sénateurs ont d'ores et déjà adopté l'article ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Le gouvernement parle aujourd'hui d'un texte de progrès. Que dit la féministe, la philosophe aussi, la féministe de gauche que vous êtes ?
Alors, je suis d'abord philosophe, ensuite féministe, mais je suis proche d'un féminisme américain qui est aussi un féminisme social et pas libéral. Je suis pas tendance à penser en tant que femme, je fais ce que je veux de mon corps, donc je le vends ou je le vends pas.
Ah, c'est ce que vous dites aujourd'hui, madame?
Non, justement, ça c'est le féminisme libéral. Le féminisme social, c'est tout simplement une conception sociale aussi de la justice, de la justice sociale, je dirais, qui est que les lois sont faites pour éviter les injustices et pour éviter, et ça c'est crucial de mon point de vue, pour éviter que les personnes soient traitées comme des choses. C'est-à-dire que leur corps soit traité comme une chose. Or, acheter un morceau du corps, que ce soit des cellules, des organes, ou acheter une grossesse, un accouchement et par conséquent un enfant, c'est traiter des personnes comme des choses. C'est littéralement renverser un des piliers du droit depuis les Romains, les Grecs jusqu'à...
C'est comme ça que vous voyez le progrès social dont parle Madame Musin aujourd'hui
Je pense que les mesures qu'on prend actuellement, tout ça est assez grotesque. Il n'est pas beaucoup question de bioéthique là-dedans. J'en prendrai qu'un exemple. Le président du Comité consultatif national d'éthique a cru bon de dire à chacun son éthique, chacun sa morale, chacun son éthique. Nous, on essaye de satisfaire la demande sociale. Mais... c'est pas ça. L'éthique, c'est au contraire, c'est pas seulement les intérêts particuliers. particulier ou j'entends la vision bien, Sylvie Nagasaki, morale
ça
de
veut
chacun.
Dire, si je vous entends non. bien, que toutes les femmes ne peuvent pas choisir si oui ou non elles veulent avoir un enfant, quand et avec qui aujourd'hui.
Alors écoutez, c'est pas tellement ça la question. La question, il faudrait la faire remonter. Pourquoi y a-t-il demande d'enfants et je ne sais pas combien de temps il me reste.
Mais peu malheureusement.
D'où vient la demande d'enfants? Les femmes dont nous parlons ne sont pas stériles, n'ont pas de problème de santé, elles peuvent faire des enfants, c'est leur liberté. Ouais. La demande d'enfants aujourd'hui, elle provient d'un paysage mondial. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Vous avez un marché généralisé de la procréation, y compris des organes aussi, mais ça c'est plutôt souterrain. Et on vous dit dans le monde, en Ukraine, en Californie, partout, vous pouvez acheter des cellules, vous pouvez acheter des ventres, vous pouvez acheter des femmes, vous pouvez acheter des enfants. À partir de là, et ça, c'est Marx qui l'a dit très bien, très très bien. L'offre crée la demande, et tout à coup, on assiste à une demande d'enfants.
D'égalité.
Non, pas. On assiste à une demande d'enfants qui s'appuie sur des technologies, qui est nourrie par le marché, et dont on voudrait que la sécurité sociale satisfasse les mêmes prestations que le marché mondial des cellules. On nous parle d'égalité, il ne s'agit pas du tout d'égalité. La médecine aujourd'hui, elle traite à égalité, elle traite en tant que médecine, c'est sa mission, c'est ça la question aussi.
Il n'est pas question d'égalité.
La mission de la médecine, c'est de soigner des gens, c'est de prendre en charge avec la solidarité assurance maladie les problèmes pathologiques. À partir du moment où vous sortez de la logique de la pathologie, vous entrez dans une logique de fabrication, et c'est exactement pour ça que la réforme est faite. Et sur le modèle, ça j'y insiste beaucoup, je prends encore une minute là-dessus, sur le modèle exactement de la Californie, c'est-à-dire une révolution dans la filiation, on construit la filiation sur la parenté intentionnelle. On prend des parents intentionnels, ça s'appelle des clients aux États-Unis. Et les clients deviennent des parents. Et on voudrait faire ça aussi en transposant dans notre droit.
Voilà ce que vous rejetez, évidemment, Sylvia Nagasinski. Pas question d'égalité, c'est ce que vous nous dites aussi ce soir sur cette loi de bioéthique au Sénat. Merci beaucoup d'être venu en tout cas vous exprimer au micro d'Europe 1. Merci à vous.